dans l'actualité des idées aujourd'hui. La crise peut-elle être féconde? Invitée, la philosophe Evelyne Grossman, professeure de littérature contemporaine à l'université Paris Diderot, éditrice chez Gallimard des œuvres d'Antonin Artaud, auteur de La créativité de la crise aux éditions de Minuit. Après un éloge de l'hypersensible, elle explore aujourd'hui, avec l'aide des penseurs qui lui sont chers, d'Artaud à Beckett, de Barthes à Deleuze et Guattari, ou encore Louis Calafert, le versant psychique et philosophique de la notion de crise dans son rapport à la création, de la page blanche à l'injonction faite au créateur de donner du sens à ce qui nous arrive. La crise est-elle créatrice? On en parle jusqu'à 13h30. Bonjour à vous, Evelyne Grossman.
Bonjour.
Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Comment avez-vous vécu comme philosophe, comme femme, comme citoyenne, vous, cette période de confinement? Comment avez-vous appréhendé cette période où le temps a semblé suspendu? Et comment imaginez-vous maintenant cet après dans lequel nous sommes déjà sans y être vraiment? Est-ce que c'est des questions qui se sont posées pour vous, comme philosophe?
Alors, ce sont des questions, en effet, qui sont des questions cruciales, je trouve, en ce moment. C'était une période, il me semble, d'une grande intensité. Même si tout était à l'arrêt, d'une certaine façon, il me semble que d'un point de vue psychique, émotionnel, il s'est passé tellement de choses, c'était d'une telle violence, que forcément, cela va avoir des conséquences qu'on ne mesure pas encore. Ce peut être des conséquences que certains craignent. Alors évidemment, des conséquences économiques et sociales effroyables, ça on le sait, il y a eu des milliers de morts, on le sait. Mais il y a aussi certainement des dommages psychiques qui vont se faire jour. Et aussi, c'est du moins je crois ce qu'on peut espérer, plutôt qu'une espèce de dialectique toujours un peu stérile entre crise et création, crise et guérison, essayer d'imaginer que profondément quelque chose a été remué, secoué en nous, et que ça ne va pas se remettre dans le même ordre. Voilà, c'est en tout cas mon espoir.
Mais est-ce que vous avez cherché, est-ce que vous avez réussi à penser ce moment, ou est-ce que finalement il a été peut-être aussi inhibant, et vous vous êtes laissé aller à cette impossibilité, en tout cas du moment?
Comme tout le monde, oui. Moi je suis très étonnée quand je repars maintenant avec des collègues, des amis, de voir qu'ils ont presque tous traversé des périodes extraordinairement calmes, trop calmes. Des périodes d'inhibition, des périodes où ils ne parvenaient pas à lire. C'est sans doute un des effets de ce confinement que nous avons subi. Et il était normal de se permettre une pause, finalement. De s'accorder ce moment de relative à la fois stabilité et instabilité. Il me semble en effet que, voilà, il n'y a pas eu que ces inhibitions ou ces arrêts, il y a eu aussi de façon sous-jacente toutes sortes de choses qui bougeaient. Moi, par exemple, j'ai beaucoup lu. D'abord, je n'ai rien fait et après, j'ai beaucoup lu. Et grâce à un certain nombre d'associations d'idées, j'ai relu Virginia Woolf, par exemple, qui est quelqu'un qui a traversé énormément de crises et qui, justement, parle de ces instants de vie, qui sont des instants à la fois multiples et féconds. Et je trouve que, en tout cas, ça m'a aidé à comprendre quelque chose de ce qui se passait. À la fois une multiplicité dangereuse, qui pouvait en effet être meurtrière, agressive, mais aussi une multiplicité d'idées, d'étincelles, ce qu'elle appelle, elle, des moments de vie qui sont des moments d'une extraordinaire intensité. Voilà, donc c'est ce paradoxe que nous avons tous vécu, je crois, à la fois de peur et de joie, à la fois d'intranquillité totale, d'insécurité. On avait vraiment l'impression que le monde était sur le point de s'effondrer, que tout pouvait s'effondrer, mais aussi qu'il y avait dans ce risque d'effondrement quelque chose qui pouvait être une chance, qui pouvait surgir, en tout cas qui remettait un peu en question nos équilibres quotidiens trop faciles.
On a entendu des écrivains, des philosophes voir dans le confinement une situation productive parce que retour du silence, parce que calme et finalement situation imposée de concentration. Et puis d'autres au contraire, comme le réalisateur Christophe Doré, qui a parlé lui de ce temps imposé comme d'une tannée, comme d'un temps empoisonné, de cet enfermement tout sauf une source d'inspiration finalement, ou une période de création, de créativité, parce qu'au fond c'est au contact du monde aussi qu'il a peut-être le sentiment lui de trouver l'envie de penser, d'écrire, d'imaginer.
Oui, il a raison, je trouve, dans la mesure, en tout cas c'est comme cela que lui le vit, mais il est bien évident qu'on ne peut pas généraliser à tout un chacun, mais on ne peut pas décréter l'inspiration. Vous voyez, on ne peut pas, ce serait trop simple, on ne peut pas décréter qu'on va s'enfermer dans une pièce sans bruit extérieur et qu'on va se mettre à créer. Ça ne marche pas comme ça. Donc, on a besoin de relations, d'interrelations, d'interactions. Il ne faut pas non plus qu'elles soient trop fortes, sinon ça peut tout étouffer. Il y a là, et c'est ce que j'essaie de penser, il y a là un déséquilibre subtil qu'il faut trouver. Et donc, je comprends très bien ce que dit... Christophe Honoré, on peut avoir une réaction un peu paranoïaque d'enfermement, se dire qu'on subit une injonction qu'on n'a pas choisie. Et c'est très désagréable, ça ne peut engendrer que de la colère, et pas quelque chose qui serait, il me semble, créateur. C'est pas dans cet état d'esprit qu'il peut sortir... des pensées un peu désorganisées, organisées, en voie d'organisation en tout cas.
Mmh. Artaud comparait, vous le rappelez, Evelyne Grossman, la perte d'inspiration à un effondrement central de l'âme. De quelle crise parlez-vous dans cet essai, La créativité de la crise, qui paraît aux éditions de Minuit? Est-ce que vous parlez et réfléchissez autant à la crise intérieure, à l'auteur, la crise d'inspiration, ou à la crise extérieure à lui, celle qui est propre au monde qui l'entoure et qui lui pèse?
Il y a sans aucun doute les deux, il y a toutes sortes de crises. C'est ce que j'ai découvert au fur et à mesure en réfléchissant à cette notion de crise, qui est une notion polysémique, enfin, ça veut dire énormément de choses. C'est la crise intérieure, c'est celle qu'on traverse, par exemple, dans tous les exemples que j'ai donnés, chez des écrivains, chez des philosophes, chez des créateurs, des peintres, des artistes, qui sont des moments d'arrêt, des moments de quasi-effondrement. Alors chez Antonin Artaud, ça prend une tonalité évidemment cataclysmique, parce qu'il est psychotique. Mais chez tout un chacun, ce risque d'effondrement, il est toujours sous-jacent, si on y prend garde. En tout cas, il me semble qu'il faudrait qu'on y prenne garde et qu'on y soit plus attentif. Donc chez Artaud, c'est extraordinairement violent. Mais toutes ces crises, ces micro-crises, ces crises microscopiques, elles génèrent en effet toute une série de processus qui peuvent être des processus créateurs ou créatifs. Donc je parle de la crise intérieure, mais je parle aussi de ce qui se passe entre le monde et soi. Mais là aussi, je crois que c'est un des enseignements extraordinairement intéressants de cette crise, c'est qu'on a tous, enfin tous, certains ont été brusquement intéressés par des phénomènes dont ils n'avaient strictement aucune idée. Par exemple, l'immunologie. Je suppose que je ne suis pas la seule, j'ai brusquement découvert qu'il se passe là des choses passionnantes, qu'il y a des recherches absolument extraordinaires qui nous montrent que les choses ne sont pas dans des oppositions simples, le monde extérieur et l'intériorité. Il n'y aurait pas à l'extérieur des virus, des microbes, et puis un soi intérieur que les virus viendraient infecter. Tout ça est infiniment complexe et ça marche dans les deux sens. Là, je vous en parle juste une demi-seconde. J'ai lu il y a deux jours un article extraordinaire qui s'appelle « Vivre avec les virus » d'une anthropologue qui s'appelle Charlotte Brive, et qui rend compte de toute une série de modifications justement de nos conceptions autour de l'immunologie. Et par exemple, Il y a cette idée que, contrairement à des oppositions trop simples entre intérieur et extérieur, entre soi et non-soi, peu à peu, l'immunologie a découvert que le virus, à un moment, fait partie intégrante de la bactérie et que la bactérie, alors, va développer de nouvelles compétences. C'est-à-dire que son mode d'existence change radicalement. Vous voyez ? Et alors, ce que j'ai trouvé extraordinaire, donc ce qu'elle veut dire, c'est que vivre avec le virus, ça veut dire vivre autrement, ça veut dire devenir, au sens de Deleuze, devenir plastique. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que la dernière phrase de son article, c'était celle-ci. En prenant au sérieux la précarité du vivant et ses puissances créatrices. Je me suis dit, magnifique, c'est exactement ce que j'avais essayé de dire dans l'éloge de l'hypersensible. Vous voyez, la précarité du vivant, que nous sommes tous extraordinairement fragiles, mais qu'il y a là des puissances créatrices qui viennent, quand on sort justement de ces hypothèses un peu paranoïaques d'être envahi par un dehors extérieur potentiellement meurtrier, il y a l'idée à un niveau infiniment plus ténu, microscopique, au niveau de la chimie moléculaire, la biologie moléculaire, à laquelle je ne connais rien. Mais ces deux ou trois choses me font dire que voilà, des idées de ce type, sans vouloir y voir des métaphores ni des applications, mais ça montre que chacun dans nos champs très différents, nous arrivons un peu au même type de conclusion, c'est-à-dire qu'il faut sortir des dialectiques un peu lourdes, vous voyez, intérieur-extérieur, affirmation-renversement, hein, dialectique type, dialectique hegelienne. C'est la philosophe Catherine Malabou qui nous a aidés, je crois, il y a déjà quelques années, à comprendre que la dialectique, c'était plus subtil que ça, et qu'il y avait chez Hegel déjà une plasticité. Vous voyez. Et ce terme de plasticité, il est repris là, à propos de l'immunologie. Il y a des devenirs plastiques. Il y a cette idée de, non pas envahissement, mais vivre avec, devenir avec, transformer l'autre avec qui nous sommes en contact. Donc voilà, toutes ces idées, je trouve que grâce à la crise, on commence à les appréhender différemment parce qu'on a entendu toutes ces choses passionnantes aussi sur ce virus. Mais puisque, voilà, moi ça m'a beaucoup inspiré.
Oui, comme vous, puisque vous parlez de corps social et de nos corps sociables, et je fais une autre parenthèse, et oui. Est-ce que ce concept qui a surgi dans nos vies de distanciation sociale vous a aussi interpellé ?
Ah oui. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, il paraît qu'il faut dire distanciation physique, d'ailleurs, puisque ce serait un anglicisme, distanciation sociale. Mais de toute façon, ça revient au même, on est d'accord. Distanciation sociale ou physique. Il faudrait. Alors là, on est à nouveau dans la parano au sens banal, hein. C'est-à-dire attention, l'autre est dangereux. Il faut pas s'en approcher. Il faut laisser une barrière. Et on n'arrête pas de nous parler de barrière. Mais ça, c'est les vieux sens de l'immunologie où c'est des conceptions un peu archaïques, comme si on en était toujours à cette façon d'appréhender les épidémies comme la peste au Moyen Âge. Et d'ailleurs, Artaud a écrit des choses superbes, comme on sait, sur la peste. C'est plus complexe que ça. Alors évidemment, il y a des mesures de protection, bien sûr, quand on a vu ces images effrayantes hein, de médecins qui étaient complètement couverts d'une espèce de carapace. Bien sûr qu'il faut se protéger. Mais la protection, c'est sans doute plus complexe que ça, parce qu'on sait bien qu'il faut aussi avoir... Alors là, je le dis en profane, hein, mais on sait bien qu'il faut avoir un certain contact avec ces virus. On sait bien qu'ils dorment en nous, qu'ils vivent en nous et que les très jeunes enfants, par exemple, doivent être dans des milieux pleins de... Je ne sais même plus la différence entre un virus et une bactérie, mais ils doivent être en tout cas dans ces milieux qui sont des milieux de contamination, qu'il faut qu'ils aient toute une série de maladies infantiles. Donc, ça nous montre bien que ces questions de distanciation sont extraordinairement complexe. Là aussi, il faudrait les penser en termes de plasticité, vous voyez, pas la rigidité qui fait qu'on a peur des autres, mais bon, calculer.
Evelyne Grossman, oui. Auteure de La créativité de la crise dans Coma, l'écrivain Pierre Guyotat raconte cette période de dépression profonde qu'il a vécue, qu'il a connue. Il relate sa grande crise du printemps 1982 qu'il avait conduit, écrit-il, au bord de la mort. On écoute un extrait de ce texte Coma, lu par Patrice Chéreau.
Il faut attendre, sans colère, s'appliquer à se nourrir, à dormir, à se laver, à se vêtir, à marcher, chaque jour. Le tout presque seul et sans même soi-même à ses côtés. Essayez, par un coup si gauche, de reprendre du cœur. Patience, patience.
La crise créative, c'est un peu un poncif, et vous le racontez, vous décortiquez cette notion, cette attendue, Evelyne Grossman, dans votre essai. Là, on entend Pierre Guyotat nous dire quand même que de cette dépression profonde, il a réussi à sortir quelque chose de lui, hein, une création, qu'il a réussi à retrouver un équilibre dans ce déséquilibre.
Oui, Pierre Guyotat est quand même un phénomène, on ne peut pas, comment dirais-je, on ne peut pas le prendre comme modèle de ce qui se passerait pour le commun des mortels. Et en plus, c'est un lecteur extraordinaire, hein, quand on entend là. Là, c'est vrai, c'est Chéreau qui lit Guyotat, parce que Guyotat, comme vous le savez, lisait aussi, hein, ses œuvres. Il y avait tout un côté théâtral chez lui. Oui, c'est un poncif, en effet. Je suis partie de ce poncif, d'ailleurs. Hein. Là, sous la phrase d'Edgar Morin, les crises génèrent...
Des forces créatrices.
Ouais. Voilà, exactement. Voilà,
ces mots qu'il a eus dans les années 70, au moment de la rédaction de son ouvrage sur la chrysologie, où il raconte comment de la désorganisation peut naître aussi une forme de réorganisation. On va y venir sur cet idéal de progrès.
Oui. Alors, bon, en tout cas, ce poncif, on sait bien qu'il ne rend compte que très imparfaitement de ce qui se passe. Vous savez, ce sont les idées qu'on a tous, hein. Il faut vraiment toucher le fond et puis on va remonter comme une bulle, voilà, comme s'il y avait une espèce de mécanique simple. C'est pas comme ça que ça se passe, on le sait bien. Il y a une multiplicité d'interactions qui entrent en jeu. Alors Guyotat, c'est un cas spécifique. Il y a chez lui tout ce mélange de sexuel, de théologique. Il y a cette jouissance de l'effraction, la jouissance du coma, la jouissance de l'évanouissement. Il y a eu des bibliothèques écrites sur cette jouissance de l'évanouissement, la jouissance du néant. Indéniablement, il y a là quelque chose qui n'est pas uniquement négatif et qui n'est pas l'équivalent de la mort. Le coma n'est pas la mort, sans entrer dans des débats complexes. Mais on sait bien que là, il y a des choses qui se jouent. Et donc, ce n'est pas un modèle, Guyotat, mais j'en ai parlé parce qu'il avait cette façon extraordinaire de nous montrer qu'à travers son corps, il rejouait constamment une espèce de remise au monde de lui. À travers sa blessure. C'est un thème qu'on trouve dans la littérature. On le trouve chez d'autres écrivains, chez d'autres hommes qui sont fascinés par ces trouées corporelles. Voilà. Dans tous les sens pervers que cela peut également suggérer. Est-ce que là, il ne pourrait pas y avoir une façon de se mettre au monde ou de se remettre au monde? C'est ce vieux thème... création, procréation, qu'il explore finalement.
La question de la jouissance, la question aussi de la culpabilité créative face au défaitisme d'autres. Comment Barthes, lui, s'empare-t-il de ce mythe de la crise féconde?
Oui, Barthes savait de quoi il parlait, puisqu'on sait bien qu'il a probablement lutté constamment contre... cette extraordinaire intrication du désir et de l'interdit. D'où l'intérêt jamais démenti de Barthes pour la psychanalyse. Ça, c'est un grand thème psychanalytique. L'interdit et la culpabilité. L'interdit de jouir. Et donc, chez Barthes, ça prend toutes sortes de formes, dont chez lui, un des fils conducteurs, c'est ce désir qu'il a d'être un romancier, ce désir qu'il a d'écrire, Et finalement, il n'y parvient pas. Enfin, ce qu'il écrit, c'est quelque chose d'autre. Il écrit des essais qui sont à mi-chemin entre le romanesque, enfin, au sens où il parle de romanesque, et la théorie. Et Barthes invente là une subjectivité qui est extraordinairement féconde entre justement la pensée et l'écriture, entre la théorie du sens, puisqu'on est en pleine période, années 60, 70, 80, la linguistique, les théories du sens, la créativité de la langue, tout ça, ça génère toute une réflexion extraordinairement intéressante chez Barthes. Donc d'une part cela, et puis d'autre part la culpabilité, le constat, je n'y arrive pas, je ne peux pas, ça ne naît pas, au sens de naître, ça ne... voilà. Et donc il se moque lui-même de ce qu'on enseignait autrefois aux scolaires, c'est-à-dire hein, dans les Lagardes et Michards de l'époque, il y avait un autre nom même à l'époque de Barthes, qui était la grande crise créatrice chez un certain nombre d'écrivains, qu'on leur racontait un peu pour, qu'on racontait aux élèves, donc, pour comme un de ces mythes qui ont toujours intéressé Barthes. Hein. Par exemple, les crises passionnelles ou sentimentales chez Lamartine, Musset, Apollinaire. L'idée que ces crises n'avaient pas été pour rien, ça les a fait écrire. Ou les crises spirituelles, Chateaubriand, voilà. Toutes sortes de crises dont on disait qu'elles avaient été finalement créatrices, qu'il avait fallu en passer par cette douleur pour écrire. Et ça rejoint un autre mythe, tout aussi répandu, des douleurs de la création. Ce qui, évidemment, pourrait nous conduire à parler d'un de ces thèmes qui m'a intéressée, qui est le rapport entre création et procréation. En tout cas, le mythe, ici, c'est que la création, il faut payer. C'est pas donné. Il faut souffrir. Même si souffrance et jouissance sont liés, la jouissance au sens de Lacan, c'est du plaisir, mais avec une part de souffrance et de douleur. Et ça, Barthes le sait parfaitement, il a beaucoup réfléchi sur ces questions de la différence entre le plaisir et la jouissance. La jouissance est toujours teintée de culpabilité, enfin toujours, dans une de ses formes. Elle est liée à la culpabilité, elle est liée à la douleur. Voilà, donc tout ça c'est extrêmement à la fois complexe dans ce que nous dit Barthes et puis drôle. Et c'est important qu'il en rie.
Evelyne Grossman, philosophe, auteure de La créativité de la crise aux éditions Minuit et notre invitée jusqu'à 13h30. Pour l'heure France Culture, il est 13h19.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Voilà, on évoquait Edgar Morin, les crises qui génèrent des forces créatrices. On évoquait aussi cette question du progrès, cet idéal de progrès qui engendrerait un fantasme de toute puissance et cette perte de foi dans le progrès qui entraînerait aussi une bascule, un déséquilibre. C'est aussi ce que nous disait il y a quelques jours l'écrivain espagnol Javier Cercas. On se croyait protégé par le progrès. On a découvert notre fragilité totale dans la crise.
Souvent, ce qui est bon pour la vie, c'est mauvais pour la littérature. Et au contraire, ce qui est mauvais pour la vie, c'est bon pour la littérature. C'est-à-dire, la félicité, c'est muette. Et dans un monde heureux, il n'y aurait pas de la littérature. Au moins, je suis sûr qu'il n'y aurait pas de roman. Peut-être la poésie un peu est très mauvaise, mais du roman n'existait pas. C'est-à-dire, un peu le romancier, l'écrivain vit, sa nourriture, c'est les conflits, c'est la douleur, ce sont les crises. Le meilleur écrivain sont ceux qui transforment la douleur, les crises, l'horreur en beauté et en sens.
Voilà l'écrivain Javier Cercas qui nous ramène dans cette opposition que vous évoquez et dont vous traitez dans votre livre, Evelyne Grossman, là entre le bon et mauvais, mais aussi entre la créativité et la stérilité. Comment vous entendez ces mots de Ravers-Cercas ? Les meilleurs écrivains sont ceux qui transforment la douleur, les crises en beauté et qui leur donnent sens.
Oui, mais alors dans ce cas, transformation s'entend au sens d'une alchimie subtile dont personne n'a la recette. Je trouve très beau quand, enfin, c'est un peu une autre idée, mais quand il dit la félicité s'émiette, la félicité, le bonheur s'émiette dans le quotidien, il y a une espèce d'usure. Et par conséquent, dans des crises qui nous secouent, on retrouve une sorte d'acuité. On ressent beaucoup plus fortement. Et d'abord, et ça je suis absolument d'accord avec lui, l'écrivain, l'artiste, le créateur est quelqu'un qui doit être, comme je le disais dans un livre précédent, hypersensible. C'est-à-dire justement qui se laisse envahir, comme la bactérie par le virus si l'on veut, qui se laisse envahir par toutes sortes, alors pas forcément de douleurs ou de souffrances, mais toutes sortes d'émotions, toutes sortes de sensations qui resteraient peut-être étrangères à d'autres. On avait l'idée autrefois que c'était seulement les artistes qui étaient hypersensibles, sous-entendu ils avaient un côté féminin, bon, avec tous les stéréotypes attachés à cela. Mais il y a l'idée certainement là qu'il faut cette vulnérabilité, il faut cette fragilité. Ça c'est une des idées que je reprends, que je ressors de cet itinéraire à travers la créativité de la crise que j'ai menée. C'est la nécessité de l'inquiétude, de la vulnérabilité, du déséquilibre. Pas au sens naturellement d'une recherche masochiste de la souffrance, c'est pas ça du tout. Mais c'est en tout cas s'ouvrir à ces interactions, à ces relations, à ce qui peut parfois être douloureux, parce que, et il a raison, cet écrivain, il y a sans doute cette supposition qu'il faut être, comme on disait autrefois, avoir le cuir moins solide que d'autres. Il ne faut pas de cuirasse, justement. Il faut laisser venir toutes les sensations, y compris celles qui sont douloureuses. Sinon, on se laisse étourdir par toutes sortes de bonheurs éphémères. Et ça s'émiette, il a raison, la félicité s'émiette.
Je voulais vous faire entendre une dernière voix, Evelyne Grossman, une voix politique cette fois, se réinventer après la crise. C'est Emmanuel Macron qui nous le disait, évoquant le monde d'après, extrait d'un documentaire au cœur de l'Élysée face à la crise, diffusé à la mi-mai dernier sur BFM.
Le monde d'après a commencé par nos réactions, parce que nous avons su faire, nous avons commencé à ouvrir une nouvelle phase de la vie du pays. Mais on voit bien que nous avons vécu l'impensable. Une crise sanitaire qu'on ne pensait pas traverser. Nous avons connu des manques sur des choses qu'on considérait sans valeur. Nous avons redécouvert l'importance de l'indépendance sur certains sujets. Et donc nous devons, je pense, dans cette sortie, réinventer des sociétés, une nation plus résiliente, c'est-à-dire qui sait faire face dans la durée à ces chocs, à ces crises, d'un point de vue moral, d'un point de vue organisationnel, et qui sait s'adapter à cela.
Voilà, nous avons vécu l'impensable, disait Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va falloir le penser maintenant, cet impensable, et recréer aussi peut-être un avenir qui nous rassemble ? Est-ce qu'on a tort, vous pensez, de faire tant appel aux artistes, aux écrivains, aux philosophes, pour essayer d'imaginer l'avenir, pour nous donner un horizon ? Est-ce que c'est les charger, vous charger d'une symbolique trop forte ?
Oui, l'impensable, oui, Emmanuel Macron a raison de parler d'impensable. Si ce n'est que là, bon, on est un peu dans une rhétorique, résilience, bon. Il ne s'agit pas d'attendre des artistes, des philosophes qu'ils montrent le chemin, qu'ils soient des directeurs de conscience. On a heureusement dépassé cette époque, cette croyance. Il faut au contraire s'appuyer sur leur incrédulité, sur ce fait qu'ils remettent toujours les choses en question, qu'ils sont capables de se laisser déstabiliser, que là où les autres croient que tout est parfaitement rectiligne, eux voient des chemins de traverse, voient des chausse-trappes, des trous. C'est en cela qu'ils nous apprennent, il me semble, à penser, parce qu'ils n'ont pas peur des trouées, des effondrements, ils savent comment les traverser sans s'effondrer. C'est en cela que les artistes sont très forts, bien plus forts que nous. Et c'est ça qu'on peut apprendre d'eux. Non pas à se laisser couler et puis on se dit qu'on va rebondir, hein, cette métaphore du rebondissement, ou qu'on va ressusciter, ce qui est une autre métaphore du même genre. Non, c'est l'idée que tout ça est un savoir-faire extraordinairement ténu, extraordinairement fragile, et il n'y a pas de grands horizons. Il ne s'agit pas d'inventer l'avenir, mais il y a des processus qu'il faut... comment dire ? Il faut s'en accommoder, il faut les tenir. Et ça, ils peuvent nous le montrer. Oui. Dans la mesure où, quand on regarde une œuvre d'art, on n'est pas à l'extérieur. Hein. Ça, c'est ce que montre Louise Bourgeois. Elle nous apprend à faire avec ces cellules. Hein. Elle nous apprend à bouger devant ses œuvres et à repasser par les déséquilibres qu'elle a vécus pour créer. Voilà, c'est comme ça qu'on regarde un travail, c'est comme ça qu'on lit une œuvre, qu'on écoute une musique. Il faut repasser par ces déséquilibres. Et là, on apprend quelque chose. Mais ce n'est pas de l'ordre du mot d'ordre ou d'un discours un peu théâtral.
Repasser par l'équilibre, accepter aussi, d'une certaine manière, les ratages sans chercher des bénéfices à tirer dans cette crise. Ça fait penser à Beckett, à qui vous accordez aussi de longs développements, pour qui on écrit aussi avec son incapacité d'écrire, hein, ce mal d'écrire qui est... peut-être plus difficile, disait-il, que le bien écrire. Hein. Le ratage peut être une mèche qui peut rallumer ce moteur créatif sans qu'il faille, là encore, réduire cette question à cette opposition entre succès, échec, stérilité, créativité.
Oui, absolument, absolument. La grande leçon de Beckett, c'est de nous montrer, pas de nous dire, mais de nous montrer, de nous obliger à lire cette idée que le ratage est un processus, ça ne s'arrête jamais, c'est une force, c'est une énergie. On écrit avec ça, avec le ratage. L'échec, c'est un état, c'est un résultat. De même que le succès, c'est un résultat. Et ce qu'il faut essayer de tenir, c'est le ratage, c'est-à-dire la force du déséquilibre. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Sinon, bien écrire, comme dit Beckett, c'est à la portée de n'importe quel bon élève ou de n'importe quel académicien.
Et tac, merci beaucoup Evelyne Grossman. La crise et séparation, rupture d'équilibre. J'invite ceux qui nous écoutent, les auditeurs, à se pencher dans votre nouvel essai, La créativité de la crise, aux éditions de Minuit. Un grand merci à vous et un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table aujourd'hui. Merci. Benjamin Hue, Élise Leu et Henri Leblanc avec nous.